Poursuivons notre lecture de Genèse chapitre 1. Ceux qui ont leur Bible avec eux, que ce soit format papier ou format électronique, vous pouvez aussi suivre dans votre Bible. On projette ici et on lit dans la version second 21, car certains ont des traductions en français qui diffèrent, qui sont bonnes aussi, mais qui peuvent différer. C'est évidemment un texte qui a été écrit en hébreu. On va poursuivre la lecture maintenant. On était rendu à la fin du jour 5. Hein? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à semence sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte comme nourriture. » Et cela se passant ainsi, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Amen. Oui, merci pour votre patience. C'est un texte long, mais on l'a lu au complet. Alors, ce texte nous conduit à un émerveillement devant l'univers qui a été créé par Dieu. La grandeur de cet univers, merci beaucoup, nous émerveille. Une grandeur que les scientifiques commencent à découvrir, mais il y a encore tellement plus. Émerveillement devant la beauté de l'univers, devant son ordre, la complexité et l'efficacité des lois qui la régissent, puis toute la diversité des choses inanimées, comme les étoiles, les galaxies, même les différentes sortes d'atomes et de molécules. Diversité aussi par rapport aux espèces vivantes qui vivent sur notre planète. Est-ce qu'il y en a sur d'autres planètes quelque part? J'en doute, mais ce n'est pas strictement impossible. On ne le sait pas encore. Et puis, il y a la beauté de notre vie humaine. Nous qui sommes, et c'est un astronaute qui a dit ça une fois, on est des passagers et des gérants dans ce vaisseau spatial qui traverse le cosmos puis qu'on appelle la planète Terre. On est émerveillés. Et puis, il se trouve qu'on est dans la fin de semaine de l'Action de grâce aujourd'hui. Et ça, c'est une fête qui est je pense, est en train d'être prise en compte de plus en plus dans le Québec francophone, bien qu'à l'origine, c'était une création des colonies anglophones de notre continent. Mais je trouve que c'est assez facile pour nous, des chrétiens qui adorent Dieu, de participer à cette fête-là parce que c'est une occasion de glorifier notre Créateur et de le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Amen! Je pense que c'est assez facile de participer, puis moi j'embarque, puis je pense qu'on est plusieurs à embarquer. Donc ça tombe bien que notre sujet de la création, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Et puis, je peux dire aussi que les Autochtones de l'Amérique du Nord, qui ont beaucoup souffert aux mains des colons anglophones, francophones, enfin, tout le monde s'est fait souffrir mutuellement. Mais selon le folklore, les Autochtones qui avaient aidé les colons, ils ont célébré l'Action de grâce avec les colons. Je pense que c'est une fête qu'il ne faut pas politiser, dire « Ah, oh, c'est anglais, c'est français, c'est amérindien. » Non, c'est une fête chrétienne. Elle n'est pas dans la Bible comme telle, mais l'idée de remercier Dieu est partout dans la Bible et embarquons en tant que chrétiens, peu importe notre origine. Dans beaucoup de familles, on célèbre l'Action de grâce par un grand repas. Et puis, moi, ma mère est anglophone et on l'a toujours fêté. Puis, par l'abondance du nombre d'invités et l'abondance de mets différents, c'est comme un symbole de la générosité de Dieu. C'est vraiment le fun, ce genre de repas. Et dans beaucoup de familles, on a de belles pratiques ce jour-là, comme par exemple une prière peut-être un peu plus solennelle de remerciement avant le repas. Des fois, on fait des tours de table et on demande à chaque personne qui est là, « As-tu quelque chose pour lequel tu aimerais remercier Dieu? » Ou si, mettons que c'est le cousin qui est athée, « Es-tu reconnaissant pour quelque chose? » On ne dit pas le mot « Dieu », c'est sous-entendu. Et c'est drôle comment même parfois des personnes qui ne croient pas en Dieu, ils sont heureux quand même de dire « Mais moi, je suis reconnaissant pour telle chose. » Et donc, on invite même des personnes non chrétiennes à participer à la fête de cette manière-là. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Bien, je pense que c'est une fête, peut-être si vous ne l'avez jamais fêtée, considérez de peut-être l'année prochaine ou même peut-être ce soir ou demain. Faites une fête chez vous, invitez des voisins. Et puis dites, bien, c'est l'Action de grâce. Et puis, si vous trouvez un moyen de rendre ça centré sur Dieu, eh bien, c'est un moyen de témoigner de votre foi dans un monde qui veut rester silencieux sur le Créateur. Mais nous, notre job, c'est de ne pas rester silencieux, c'est de dire que de le remercier, ça fait partie de nos impératifs à nous et en fait de tout le monde. Vous me suivez, c'est bon? OK. Le but de mon message ce matin sur Genèse 1 est bien simple. C'est te faire prendre conscience par Genèse 1 à quel point ta personne et ta vie sont précieuses aux yeux de ton Créateur. Puis, je voudrais que cette prise de conscience te rende capable, te conduise à remercier Dieu aujourd'hui. Okay, je répète ça, te faire prendre conscience par ce texte à quel point ta personne et ta vie sont précieuses aux yeux de Dieu, ton Créateur, puis que ça te conduise à dire merci. Alors, pour en arriver là, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, on va se limiter à deux aspects du texte. Premièrement, on va se poser la question, c'est quelle sorte de texte dont il s'agit ici? Puis deuxièmement, qu'est-ce que le texte nous dit sur Dieu? Donc, on va juste regarder deux aspects. Ça va être suffisant pour, je pense, réchauffer nos cœurs. Il y aurait un troisième au moins à voir, mais on va le laisser pour une autre fois. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur les êtres humains, parce qu'il nous en dit beaucoup. On va juste toucher là-dessus ce matin, mais quand on va arriver à Genèse 2, on va comme avoir beaucoup plus à dire sur les humains. Donc, on va regarder les deux aspects, quelle sorte de texte, puis qu'est-ce que le texte nous dit sur Dieu. C'est bon, on y va. C'est quelle sorte de texte, Genèse 1, qu'on appelle le premier récit de création? Parce qu'en fait, il y a deux récits de création, Genèse 1, puis après ça, Genèse 2. Puis c'est comme raconté de manière pas mal différente. Donc, il faut parler de ce sujet. C'est quelle sorte de texte? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont dérangés par, ou déroutés au moins, par la forme de ce texte. Ils ont du mal à le lire. Ils sont dérangés par certaines choses qui paraissent dans le texte. Et on les comprend. Puis si vous faites partie de ces personnes, c'est correct. Vous êtes la bienvenue, le bienvenu ce matin. Le genre de choses qui peut déranger un lecteur moderne, c'est, par exemple, les 7 jours de création. Ça fait poser des questions. C'est quoi ça, les 7 jours de création? Une autre question, c'est certains détails qui paraissent bizarres. On voit que Dieu commence par créer la lumière au jour 1. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, jour 1, Dieu va créer la lumière. Au jour 4, il crée le soleil et les étoiles et la lune. Alors, il y a des gens qui vont dire, en lisant superficiellement ou rapidement, ben tout le monde sait que la lumière vient du soleil. Donc, la personne qui a écrit ça ne devait pas être très intelligente pour dire que Dieu il a créé la lumière, puis après ça, il a créé le soleil. Mais en fait, je vous le dis d'avance, la personne qui a écrit ça est vraiment intelligente et a écrit ça pour des personnes qui lisent intelligemment. On va expliquer un peu plus tard. C'est un texte qui a été écrit par un sage, inspiré de Dieu en plus, pour des sages. Là, pour le moment, on fait juste énumérer des difficultés pour les lecteurs et lectrices modernes, dont je fais partie, et j'ai aussi eu ces mêmes pensées moi-même. Un autre aspect qui est difficile pour les modernes, c'est qu'on parle de Dieu comme un être humain dans cette histoire-là. On va dire qu'il parle, hein? Il parle. On dit qu'il bénit avec des paroles. On dit qu'il fait des choses, ça c'est peut-être un peu moins humain, mais c'est quand même humain. On dit qu'il se repose. Vous avez remarqué, le jour 7, Dieu, il se repose. Il arrête de travailler. Plus tard dans la Genèse, on dit que Dieu regarde comme s'il avait des yeux. Et à un moment donné, il va souffler comme s'il avait des poumons. On dit qu'il façonne avec ses mains comme s'il avait des mains. Finalement, un autre aspect qui peut déranger, c'est qu'il y a des différences dans les deux histoires, entre les deux histoires, entre le premier jour, le premier récit et le deuxième. Et ça aussi, ça peut faire questionner le lecteur moderne. Mais en fait, ce sont ces difficultés. Attendez, mon punch, je vais le garder pour dans un petit instant. Ça a aidé les chrétiens, ceux qui lisent avec la foi, avec l'intelligence et la foi, à mieux comprendre quelle sorte de texte il s'agit ici. Et je vous propose que Jean, chapitre 1, c'est un peu comme une grande pièce de théâtre en 7 actes, inspirée par Dieu. Une grande pièce de théâtre inspirée par Dieu. Dieu a visité un auteur humain peut-être Moïse lui-même. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Moïse lui-même qui a écrit ce chapitre. Et voilà comment j'imagine la rencontre entre le Dieu Tout-Puissant et cet auteur humain qui a vécu il y a plus de 3000 ans. J'invente un dialogue ici, ou tout au moins des paroles de Dieu ici, mais c'est un peu comme si Dieu visitait Moïse et lui dit « Moïse, je vais te révéler cette nuit certaines choses vraiment importantes sur moi-même, sur l'homme, sur l'univers, sur les origines, et je veux que toi, tu les communiques aux autres hommes. Je veux que tu utilises des approches artistiques de ton époque, des symboles, des techniques poétiques de ta culture, des manières propres à ton temps pour structurer une histoire. Peut-être des choses que tu as apprises dans tes cours lorsque tu étais dans le palais du Pharaon en Égypte. Et je veux que tu mettes ces vérités dans un beau texte que les gens vont aimer. Moïse, je veux que tu sois créatif dans ta manière de formuler le texte. Toi, tu sais que les gens aiment les textes où on décrit les dieux comme des humains. Les gens savent qu'ils ne sont pas des humains, mais les comparaisons les aident à comprendre. Les gens vont savoir comment décoder. Ils savent que c'est juste des comparaisons. Je veux que tu utilises cette comparaison dans ta pièce de théâtre. Moïse, il y a d'autres textes que je vais te révéler plus tard qui sont dans un langage plus direct. Et les gens vont savoir la différence. Par exemple, à un moment donné, je vais te donner un commandement qui dit « Tu ne voleras pas ». Les gens vont savoir qu'il faut l'interpréter direct. Et puis Moïse, une autre chose. Les scientifiques, dans 3000 ans, vont découvrir bien des choses sur l'univers, comme l'existence des galaxies et des trous noirs. Tu n'as pas besoin de savoir ça, même tu ne le comprendrais pas. Moi, je me limite à te dire les choses fondamentales pour les hommes de tous les temps, et je te les révèle cette nuit. Bon. Amen. Ça, c'est moi qui ai inventé ça pour expliquer comment une telle conversation a pu avoir lieu entre le Dieu qui révèle et l'auteur humain qui doit le mettre dans une belle forme pour que les humains puissent le lire et l'apprécier. Et c'est un texte qui est lu depuis peut-être 3000 ans et qui est la base pour le peuple de Dieu. Nous touchons ici à un des mystères de la parole de Dieu. Un des grands mystères de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu dans la Bible, elle est pleinement parole de Dieu. Elle est inspirée, elle est digne de confiance. On peut baser notre foi et notre salut sur cette parole. Et en même temps, et c'est ça le mystère, elle est pleinement la parole d'un homme ou d'hommes, avec tous les éléments créatifs, historiques et culturels qui viennent de cet homme, qui viennent de sa culture, qui viennent de cet ancêtre dans la foi. Nos ancêtres dans la foi, on pense par exemple au peuple d'Israël, qui ont entendu cette parole avec intelligence, mais aussi dans la soumission de la foi, ils savaient peut-être plus que nous, comment décoder les symboles, les rimes, les rythmes, les répétitions, les jeux de nombres. Vous savez que dans ce texte, quand on l'étudie en profondeur, il y a des jeux de nombres avec le nombre 3, avec le nombre 7 et avec le nombre 10. C'est comme construit dans le texte, assez extraordinaire. Et on est moins habitué à notre époque. Mais nos ancêtres savaient qu'il fallait écouter avec foi, interpréter avec le temps, avec l'intelligence, puis appliquer le sens à leur vie. Comme nous, ils pouvaient aussi se tromper. Nous aussi, on peut se tromper. Et donc, c'était en communauté aussi qu'ils interprétaient ensemble. Et nous aussi, on peut faire pareil. Alors, vous pouvez m'écrire. C'est très légitime. Techniquement, vous pourriez même m'interrompre ce matin et dire, « Pasteur, vous oubliez de dire quelque chose. » Le principe est légitime. C'est ensemble qu'on interprète. Même un pasteur peut se tromper. Mais n'hésitez pas en tout cas à m'écrire, dire, « Ah, t'as pas parlé de telle chose » ou « T'as pas parlé de telle interprétation ». Ensemble, c'est ensemble aussi qu'on interprète et qu'on se protège mutuellement d'aller vers un dérapage d'interprétation. Et c'est ce que nos ancêtres en Israël et parmi les premiers chrétiens faisaient aussi. OK, donc ça, c'est le premier point qui est quand même assez important aujourd'hui, c'est quelle sorte de texte. Mais ça nous amène à une deuxième question. Si c'est un texte qui enseigne des vérités, mais qui a un côté artistique qu'il faut décoder, mais quels sont les éléments importants qu'il faut appliquer à nos vies? C'est ça la grosse question. Et alors, une des choses, premièrement, il y a beaucoup. Puis ce matin, on va juste voir une couple de choses qui sont vraiment importantes. Il y a vraiment énormément. Mais un des indices qu'on peut aller voir pour dire ça, c'est important dans Genèse 1, c'est qu'est-ce que le reste de la Bible dit à propos de Genèse 1. Parce que d'autres auteurs de la Bible vont parler de ce texte-là. Jésus même en a parlé. Et donc, ce qu'un auteur biblique inspiré plus tard va reprendre de Genèse 1, ça risque d'être vraiment important pour nous aussi. Et c'est un peu cet élément qui va nous guider dans notre deuxième sujet de ce matin. Qu'est-ce qui est important sur Dieu dans ce premier récit de la création? Eh bien, premièrement, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, longtemps après, a écrit ceci. Il a dit, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. » OK? Et est-ce qu'il y en a qui savent de quoi il parlait dans 1 Corinthiens 14, quand il a dit ça aux Corinthiens? Est-ce qu'il parlait de l'univers? C'était quoi le sujet? Oui, Jérémie. Est-ce que tu voulais essayer de deviner?
Considérant que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de différentes églises qui commençaient, probablement qu'il y avait. Soit c'était Pachy qui m'a mis par rapport aux femmes et aux hommes, le rôle de chacun. Certains des dons qui étaient un peu mal utilisés, si tu veux,
Exact. Oui, exactement. Il parlait des communautés chrétiennes, particulièrement celle à Corinthe, et la manière de gérer la célébration, comme celle d'aujourd'hui, il faut que ça reflète le caractère de Dieu à quelque part. Autrement dit, si c'est le chaos total, comme c'est jamais le cas à l'Oasis, n'est-ce pas? Paul, il dit aux Corinthiens, mettez de l'ordre dans votre célébration parce que c'est le reflet de Dieu. Quand il y a des nouveaux qui viennent puis qui verraient du chaos, ça représente mal Dieu. OK? Et il dit cette phrase pour appuyer ce qu'il est en train d'enseigner. Dieu est un Dieu non de désordre, mais d'ordre. Et moi, je pense que Paul, ici, se réfère à Genèse 1. Autrement dit, il a pris ce principe dans Genèse 1, parce que c'est un récit où l'amour de l'ordre pour Dieu, l'amour de Dieu pour l'ordre, pardon, c'est, C'est partout dans Genèse chapitre 1. Ce Dieu qui crée dans le texte qu'on a lu, il aime l'ordre, est en train de mettre de l'ordre. À chaque jour, c'est un Dieu qui structure, non seulement qui crée, mais il met de la structure, il met du nettoyage, il forme un monde à partir de ce qui avant est, et je reprends l'expression, chaos et vide. Chaos et vide dans le verset 2, qui est en hébreu, ça, cette expression, c'est tohu, bohu. On entend ça des fois en français, le tohu, bohu. Ça veut dire le chaos total. Dieu crée à partir du tohu-bohu. J'ai des personnes ici qui aiment vraiment l'ordre, mettre de l'ordre. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment mettre de l'ordre? Oh, yes! OK. Y a-tu des gens ici qui aiment le désordre ou qui se sentent à l'aise avec le désordre? Oui. Je dois lever ma main, mais tout est relatif. Mais si je me compare avec ma femme ressemble plus à Dieu que moi, parce qu'elle va beaucoup plus rapidement arriver dans un endroit qui lui est approprié, un nouveau bureau. Et OK, on va mettre une peinture de telle couleur ici, on va déplacer ça là-bas, elle veut rendre l'espace vivable. Moi, c'est mon réflexe est beaucoup moins rapide à ce niveau-là. Mais on voit que c'est une caractéristique de Dieu qui est partout dans l'histoire. La semaine dernière, quelqu'un a dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu est efficace. Hein? Quelqu'un avait remarqué dans le même texte, Dieu parle, puis efficacement, ça se réalise. Et en fait, souvent, les paroles de Dieu dans ce passage, c'est que ça repousse le désordre, ça repousse le chaos. Tout est mélangé. Pensons à cette première journée. La terre était informe et vide. Dieu parle. Attendez, on va reprendre le verset. Oui, bon, tout était chaos et vide, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, il va séparer la brume qui est partout, il va la repousser vers le haut du ciel et créer des cours d'eau en bas, et ça va créer un espace libre. Dieu crée un ordre. Sa parole est efficace pour repousser le chaos. On voit aussi qu'il y a une symétrie entre les six premiers jours. Les trois premiers jours, Dieu sépare les espaces. OK? Les trois premiers jours, jour 1, il crée une genre de séparation entre la terre et le ciel. Ensuite, dans le jour 2, il va créer une différence entre la partie de la terre qui est recouverte par l'eau, l'océan, et celle qu'il y a de la terre. Il va créer deux espaces de vie différents là. Puis dans le jour 3, c'est dans le jour 3 qu'il crée la terre ferme. Donc, jour 1, ciel. Jour 2, les cours d'eau. Jour 3, la terre ferme. Ensuite, dans les jours 4, 5 et 6, il va peupler les espaces qu'il a créés. Alors, dans le jour 4, il va mettre dans le ciel qu'il a créé. Au jour 1, il va mettre quoi? Il va le peupler d'étoiles, du soleil et puis de la lune. Hein? Jour 5, il a créé la mer et il va créer les animaux qui vont vivre dans la mer. Il y a comme une correspondance. Chaque fois, on ajoute 3, donc 2 et 5. C'est vrai qu'il va ensuite rajouter des vivants dans le ciel avec les oiseaux. Puis là, au jour 6, ça correspond au jour 3 où il a créé la terre, les animaux de la terre, il est créé selon leur espèce. Hein? On remarque encore Il y a de l'ordre. Ce n'est pas les espèces qui se mélangent, mais chacun selon son espèce. Et puis, à la tête des animaux, on va dire celui qui va régner sur les espèces vivantes qui habitent sur la terre, celui et celle qui vont régner, c'est l'humain, homme et femme, qui sont créés, eux, en image de Dieu. Maintenant, Dieu aime l'ordre. Donc, la parole de Dieu organise l'univers. Dieu crée des espaces de vie. Dieu crée l'ordre, mais ce n'est pas parce que c'est un compulsif de l'ordre. Vous savez qu'il y a une maladie qui est la compulsion de l'ordre. Oui, ça existe. Dieu n'est pas comme ça, puis ce n'est pas un dictateur non plus qui crée de l'ordre pour tout contrôler, bien qu'il est en contrôle, mais c'est dans un esprit de générosité. Dieu a créé les espaces de vie pour que les êtres vivants survivent et vivent dans la joie, vivent dans l'épanouissement dans ces espaces. Et l'homme en particulier, Dieu a créé l'univers, ordonné pour que l'homme et la femme soient heureux. C'est pour ça qu'il leur dit, allez-y, remplissez la terre et soumettez-la, je vous donne toutes ces espèces et sur lesquelles vous allez dominer et je vous donne toute cette végétation de laquelle vous pouvez tirer nourriture. Mais il va plus loin encore, et ça c'est assez important, c'est que Dieu nous a remis un monde où il y a encore du travail à faire pour l'organiser davantage. C'est un univers à ce moment-là où nous, les humains, on peut imiter Dieu dans notre travail à nous, un travail où nous aussi, on peut créer, on peut organiser, on peut finalement être comme des petits dieux sur la planète Terre. Même si on reste des humains et on reste petits à côté de lui, la réalité, c'est que les humains font de grandes choses. Nous sommes capables de très grandes choses. Il ne faut pas que ça nous monte à la tête, mais c'est quand même extraordinaire. Et on pourrait faire une longue liste. Mais regardons déjà ce bâtiment ici, dans lequel nous sommes ce matin. Regardez autour de vous. Et je pourrais dire des millions de choses, mais déjà, au-dessus de nous, il y a un nouveau toit avec une membrane spéciale qui vient d'être installée pour nous protéger de la pluie. C'est les hommes qui ont inventé ça. On est éclairé par des lumières néons, qui est une technologie aujourd'hui vue comme simple, mais ça marche bien. C'est quand même compliqué. Regardez aussi la projection audiovisuelle et avec un laser que je peux utiliser. L'homme est capable de choses très compliquées. Même le travail de préparer la musique que Suzanne et Benoît ont faite avec les autres musiciens, c'est un travail qui demande beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses et ça fait partie de comment Dieu t'a créé. Dieu t'a créé à son image. Homme et femme, hein? Que tu sois une femme ou un homme, Dieu t'a créé à son image. Et un des aspects, tu es capable de l'imiter, d'imiter Dieu, de lui ressembler en créant, en ordonnant. Donc, on voit que Dieu n'est pas un Dieu jaloux. Et il te dit ce matin, ma sœur, mon frère, toi qui cherches à bâtir ta vie, peut-être à rebâtir ta vie dans une nouvelle période de ta vie, et puis tu essaies de te situer dans ce grand monde compliqué, bien, Dieu, il veut t'aider à le faire. Parce que Dieu, il croit en toi. Il te confie une tâche. Ta tâche, elle est peut-être petite quand on regarde tout l'univers, mais elle est importante aux yeux de Dieu. Tu es son image. Il veut te donner du succès. Puis peut-être que tu es dans une période d'école en ce moment. Tu es dans une formation parce que tu veux devenir avocate ou tu veux devenir plombier. Puis il faut que tu te formes avant. Mais Dieu, il croit là-dedans, puis il veut t'aider. Puis il va peut-être te dire, oui, prends le temps de devenir bon dans ce que tu veux faire. Ta contribution est sacrée aux yeux de Dieu. Et puis tu peux la lui offrir chaque jour en lui disant, « Mon Dieu, tu m'as créé pour te servir, puis pour servir la création, comme toi tu l'as fait au début. Je t'offre mon travail d'aujourd'hui comme une prière. Utilise-la pour ta gloire. » On va conclure maintenant. Mais n'oubliez pas, on veut en arriver à l'action de grâce. Hein, parce que nous avons vu que ce texte nous invite à être émerveillés par la création, par l'œuvre de Dieu. Émerveillés aussi par ce texte où Dieu est venu parler à un auteur et l'a invité à créer un récit tellement artistique. Soyons émerveillés par le caractère de Dieu, ce Dieu qui est un Dieu d'ordre, qui a créé l'univers pour toi et moi, mais c'est aussi pour qu'on devienne comme lui dans cet univers, mais dans la foi et la soumission à son autorité. Soyons émerveillés devant ce rôle et disons-lui merci. Disons-lui merci. Bon, moi, je vous propose maintenant, peut-être avant qu'on invite les musiciens à revenir, on va se lever. Levons-nous. Et puis, même si on vit des choses difficiles, même si on voit des choses terribles dans le monde, Genèse 1 nous rappelle que l'univers est bon. Prenons un moment et que chaque personne qui le désire dise une courte prière à voix haute, bien fort, de remerciement à Dieu. Prenons ce moment pour remercier Dieu avec nos voix.